Bonjour, ici en droit et les passionnés de l'environnement. La DAEO aujourd'hui a le grand honneur et distinction d'accueillir Sarah Berger-Richardson, qui est professeure à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa, section droit civil, et qui a fait beaucoup de recherches au niveau du droit agroalimentaire. Maintenant, professeur Richardson, est-ce que vous pensez que la sécurité alimentaire, en voir vos recherches et votre film, le droit à la ferme a un rôle à jouer au niveau de la production, ou est-ce qu'il y a un lien avec la production et la sécurité alimentaire?
Alors oui, premièrement, merci pour l'invitation. C'est un plaisir d'être ici. Et puis, effectivement, mes recherches portent sur le droit agroalimentaire, donc un peu à l'intersection de la production agricole, mais également le droit des consommateurs à une alimentation saine. Donc, le lien entre les personnes qui mangent les produits agricoles, mais aussi la réglementation de la production agricole. Donc, il y a certainement un lien entre la manière qu'on produit nos aliments et la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire a été définie par le Sommet mondial de l'alimentation qui a eu lieu en 1996. Fait que la définition de sécurité alimentaire, elle existe lorsque tous les êtres humains ont à tout moment un accès physique et économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive, leur permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires pour mener une vie saine et active. Alors, pour résumer, l'idée, c'est l'absence de faim, l'absence de sous-alimentation et l'absence de malnutrition. Par contre, lorsqu'on parle de la présence, comme qu'est-ce qu'il faut que ça soit saine, il faut que ça soit approprié dans la culture, il faut que ça soit accessible, abordable. Donc, ce sont tous des critères importants pour la sécurité alimentaire. Donc, on parle de disponibilité, d'accessibilité et d'adéquation. Et on parle aussi pour des chercheurs, dont la professeure Jennifer Clapp, qui parle aussi de l'importance de penser à la liberté. En anglais, on dirait le agency de la personne aussi dans le choix de leur alimentation. Donc, tout ça, c'est dans la définition de sécurité alimentaire. Et donc, le droit agricole devrait permettre ou de favoriser un accès, la disponibilité et une production adéquate des aliments. Par contre, une chose qui est importante aussi, c'est que ce n'est pas juste la production agricole qui importe, mais il y a aussi beaucoup de facteurs socio-économiques, politiques qui vont aussi jouer sur la sécurité alimentaire des personnes. Donc, on reconnaît aussi que ce n'est pas uniquement au niveau de la production agricole qu'on va résoudre tous les problèmes d'inégalité qui existent dans le monde, qui existent également ici au Canada. Parce qu'il y a d'autres enjeux de pouvoir, d'inégalité, de pauvreté.
Oui, c'est ça, c'est bien une question de, pas de la quantité, mais un peu de la qualité de la quantité. Et à ce sujet-là, allons explorer votre film. Alors, pourquoi est-ce que le cadre législatif du Québec est si orienté vers les besoins des grandes fermes industrielles au détriment des fermes diversifiées et écologiques?
Oui, en fait, alors, il faut regarder le contexte historique, puis c'est pas, c'est, ce que j'ai dit, en fait, ça vient un peu de ce que j'ai appris aussi également de Dominique Lamontagne, la personne qui est au cœur de ce film et qui a écrit l'excellent livre La ferme impossible et plus récemment L'artisan fermier, dans lequel il résume très bien le cadre législatif québécois, mais aussi son historique. Puis, ce qu'on retient dans tout ça, et puis que d'autres personnes aussi reconnaissent, c'est que aujourd'hui au Québec, notre système de lois et de règlements, donc il y avait un effort de la part du gouvernement de professionnaliser, de créer comme des syndicats pour représenter les producteurs, pour chercher des meilleurs prix pour leurs produits. Alors, beaucoup de ces origines sont vraiment dans des objectifs qui visaient comme vraiment d'aider les producteurs agricoles. En parallèle, On a vu quand même beaucoup de changements après la Deuxième Guerre mondiale avec l'industrialisation. Donc, les frontières provinciales, nationales, internationales, comme ont presque disparu. Ce qui fait en sorte que, par la nature de la compétition, on s'est retrouvé avec de moins en moins d'agriculteurs qui contrôlaient des fermes qui étaient plus grandes qu'auparavant. Donc, ce n'est pas nécessairement avec l'intention de nuire aux petits producteurs qu'on retrouve les règlements actuels. Une conséquence, et peut-être voulue, peut-être pas, était que les petits producteurs ont souvent plus de difficultés à trouver leur place dans les marchés. Et puis que parfois, des règlements qui sont appropriés pour des fermes ou des usines de transformation à une certaine taille sont mal adaptés pour des petits producteurs qui n'ont juste pas les moyens de payer pour toutes ces installations, ou c'est des choses qui ne sont juste pas pertinentes pour leur taille de production, mais qui sont imposées de façon one size fits all pour tout le monde. Donc, des fois, il y a des problèmes à ce niveau-là. Le problème, c'est aussi toutes les questions de politique économique qui vont aussi jouer sur les défis pour les petits producteurs.
Mais maintenant, est-ce qu'on pourrait parler justement plus précisément avec les acteurs de tous les niveaux, incluant les consommateurs, les producteurs? Le paradigme de production agricole industrielle serait-il en train de faire face à une vision ou à une norme plus écologique de la production alimentaire? Donc, par exemple, en ce moment, il y a beaucoup de solutions de jardinage collectif et communautaire qui se font, tant à Gatineau qu'à Ottawa, et les systèmes alimentaires soutenus par la communauté, ASC, sont de plus en plus populaires.
Alors oui, je dirais que de plus en plus, puis ça fait plus qu'une dizaine d'années, mais surtout aussi avec la pandémie, on a vu encore une deuxième vague d'intérêt dans les systèmes alimentaires locaux, les circuits courts de proximité. Donc, les jardins communautaires, les paniers bio, ce sont toutes des choses que les consommateurs recherchent, soit pour produire eux-mêmes leur aliment, donc les jardins communautaires, d'aller chercher eux-mêmes cette possibilité de participer à la production de ce qu'ils mangent, puis avec les paniers bio, d'appuyer un producteur au cours de l'année, d'apprendre un peu plus davantage sur d'où vient ce qu'on mange, de manger plus en fonction des saisons. Donc, tout ça, c'est vraiment comme mode effervescence. Il y a beaucoup d'intérêt. Je dirais que en même temps, même si je suis vraiment heureuse de voir toute l'attention qu'on donne à ces modes de production, ça reste quand même à la marge. Et donc, il y a vraiment il y a juste des bonnes choses qu'on peut dire pour ces projets, comme aussi les jardins communautaires, ça bâtit des liens dans la communauté. Donc, il y a juste des bienfaits. En plus, il y a quand même tout un travail qui doit se faire pour trouver ce que je dirais comme étant l'agriculture du milieu. Alors, si on reconnaît qu'il y a des problèmes, des défis, des lacunes avec le système industriel, puis on aimerait trouver des alternatives, accepter que, surtout dans le court terme, on ne va pas transformer l'entièreté de notre système alimentaire à des paniers bio. Je suis certaine qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas prêtes à arrêter de manger des bananes au cours de l'année parce que ce n'est pas local, ce n'est pas saisonnier. Ce n'est pas tout le monde qui est prêt à complètement changer son alimentation. Puis ce n'est pas nécessairement une bonne chose non plus de complètement abandonner tout ça. Réfléchir à l'empreinte écologique de la production agricole puis de trouver des façons de l'améliorer, sachant que ce n'est pas tout le monde qui va avoir, parlant comme des critères pour la sécurité alimentaire, ce n'est pas tout le monde qui va avoir accès à ces produits, ce n'est pas tout le monde qui va avoir les moyens. Ce n'est pas nécessairement toujours des produits qui seraient culturellement appropriés non plus. Donc, il y a quand même un enjeu ou un défi de trouver un équilibre.
Donc, aux yeux de vos recherches et de tout ce qui s'est dit aujourd'hui, quelle place occupe la sécurité alimentaire dans ce système socio-économique et juridique de l'agroalimentaire?
Comme comment est-ce qu'on peut nourrir la population de façon équitable et dans une manière qui aussi est durable.
Donc, si vous pensez que ça serait une composante de la sécurité alimentaire, donc vous avez parlé de développement durable, vous avez aussi parlé du traitement éthique d'animaux. C'est quoi le lien entre ça et en quelque sorte, le droit à avoir une alimentation saine, équilibrée, selon nos préférences?
Alors, je dirais que, ben, en fait, quand on pense aux objectifs de développement durable qui sont prévus pour l'année 2030, il y a l'objectif zéro faim, donc qui parle directement de la sécurité alimentaire et le droit à l'alimentation. Par contre, si on regarde tous les objectifs de développement durable, en fait, on voit des liens avec une dizaine ou plus des autres objectifs. Et donc, c'est logique si on pense à la production agricole, on a besoin de l'environnement. Si la production agricole ne respecte pas les limites de l'environnement, ça ne sera pas durable. On ne pourrait pas garantir le droit à l'alimentation dans le futur si on n'a pas les conditions environnementales pour permettre la production dans le futur. Donc, il faut toujours quand même penser que même si la sécurité alimentaire comme concept technique fait référence au droit de toute personne à avoir son accès à l'alimentation, il faut reconnaître que ce droit nécessite un environnement qui est en santé. Et donc, il y a vraiment toute une relation entre les différents objectifs de développement durable qui vont jouer sur la sécurité alimentaire. Alors, les questions de santé, les questions de politique publique, les questions de l'environnement, la santé du secteur économique, tout ça va jouer sur la sécurité alimentaire et sur la production agricole. On ne peut pas séparer un de l'autre. Et c'est ça aussi la beauté des droits et politiques agroalimentaires, c'est que c'est vraiment quelque chose qui nous oblige de réfléchir d'une façon qui est comme un peu plus axée sur la résolution de problèmes.
Ah, super passionnant, beaucoup de liens à faire hein, en différents enjeux. Écoutez, c'était un vrai plaisir de discuter avec vous sur cet enjeu socio-juridique. Mais avant de partir, est-ce que vous voulez laisser un mot ou retourner sur quelques points qu'on vient de discuter?
Il y a plein de choses, mais je pense que ce qui est intéressant, ce que j'aime, surtout pour, si je m'adresse surtout à des étudiants, étudiantes de droit, ce que je dirais, c'est que la sécurité alimentaire vraiment offre une possibilité de voir les liens entre toutes les différentes disciplines de droit dans lesquelles vous étudiez. Il y a des liens à faire avec le droit des biens, avec le droit de l'environnement, avec les contrats, avec la responsabilité civile, je peux compter le droit constitutionnel, le droit international. Et puis, ça fait sa complexité, mais ça fait aussi sa beauté. Mais si on mange ou si on ne mange pas, on est conscient de l'importance de notre alimentation. Alors, si on a le privilège de manger 3 fois par jour et de penser à ce qu'on mange, de faire des choix, il y a vraiment une belle invitation de réfléchir à tous les systèmes qui existent derrière chaque aliment qu'on choisit. Est-ce que les étiquettes reflètent réellement les conditions de production, d'élevage, de cultivation qu'on le croit? Est-ce que les étiquettes représentent aussi les personnes derrière les aliments? Donc, est-ce que les fermiers, fermières sur les étiquettes, est-ce qu'elles représentent vraiment les travailleurs migrants sur les fermes qui cultivent nos produits? Est-ce que ça représente Il y a énormément de questions d'ordre éthique derrière tout ce qu'on mange, puis aussi un cadre réglementaire, le respect de leur droit à l'alimentation, parce que autant qu'on veut réfléchir à comment on peut mieux manger nous-mêmes, il y a aussi une certaine réflexion qui doit se faire pour assurer ce droit pour tout le monde. Alors, c'est vraiment un domaine avec beaucoup de possibilités. Puis c'est un domaine vraiment pas en naissance, mais comme en croissance, en émergence. Donc, il y a vraiment beaucoup de possibilités de réfléchir créativement à comment faire des liens entre ce qu'on mange et le rôle du droit dans tout ça.
Oui, alors la prochaine fois que vous allez à l'épicerie, vous serez bien informé pour savoir tout ce qui a été mis à contribution au domaine juridique, social et économique pour créer ça. Et à coup encore, professeur Richardson, c'était vraiment un plaisir de vous avoir parmi nous. Et je suis certain que ça l'a vraiment servi à informer la communauté étudiante.